Eh bien, c'est l'heure de recevoir mon invité, le chef cuisinier Frédéric Payan, dont on ne cesse de voir les exploits culinaires un peu partout. Vous êtes partout, Frédéric Payan?
J'essaye d'être présent sur pas mal de réseaux, effectivement.
Alors, nous, on est ravis d'être partenaires dans le sens où on partage les recettes, la recette du mois. C'est toujours un plaisir de les avoir en audio en même temps qu'en visuel. Vous avez fait beaucoup cet hiver des recettes chaque jour à la télévision.
Oui, tout à fait. J'ai été contacté par BFM d'ici qui m'a proposé une recette pour les fêtes de Noël tous les jours filmée. Ensuite, le quotidien La Provence aussi qui m'a proposé une page entière pour des recettes pour Noël. Voilà, j'ai cette chance effectivement d'essayer de partager au maximum, parce que c'est un plaisir partagé avec Fréquence Mistral et Haute Provence Info tous les mois, et avec d'autres médias occasionnellement. Voilà, c'est un plaisir de partager toujours des recettes avec les auditeurs, les lecteurs, les personnes sur des salons, sur des foires. C'est un plaisir partagé.
Alors, ça vous demande beaucoup de travail, évidemment, pour déjà préparer la recette, mais en plus s'enregistrer. Vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, on peut le dire.
Tout à fait.
La page Facebook est alimentée chaque jour.
Voilà, tout à fait. Sur Facebook, je suis présent d'une part par des pages que j'anime, dont une page qui s'appelle La Cuisine by Frédéric Payan, qui est celle que je partage toutes les recettes. Après, j'ai des profils aussi sur Facebook qui me permettent de partager des informations quotidiennes sur ma passion pour la cuisine et la gastronomie nationale, locale et internationale. J'essaye vraiment de partager un maximum d'informations avec les personnes qui me suivent, qui sont de plus en plus nombreuses et fidèles aussi, ce qui fait plaisir au quotidien de voir que on partage des belles choses pour le bonheur des autres, en fait, d'autres personnes.
Alors, ces pages Facebook, j'ai l'impression qu'il y en a plein. Alors, combien, où est-ce qu'il faut aller sur toutes? Elles sont différentes.
Alors, j'ai 10 profils Facebook.
10 profils?
10 profils, oui. Pourquoi? Parce que Facebook bloque à 5000 personnes par profil. Donc, d'où à chaque fois la création d'un profil. Donc, ce qui aujourd'hui représente rien que sur mes profils 50 000 personnes. Ensuite, j'ai une page Facebook où j'ai consacré cette page uniquement aux recettes, et une page aussi sur mes actualités qui permet de vraiment échanger sur toutes mes infos quand je suis présent sur des salons, sur des foires, ce qui permet vraiment de partager un maximum. Donc voilà, ça c'est pour les comptes Facebook. Après, j'ai un compte Instagram où là je ne partage uniquement que des informations photos, puisque Instagram c'est que des photos. Un compte TikTok également, où j'essaye d'être présent sur des réseaux jeunes, où je partage des photos, des vidéos de recettes avec un fond musical. Et à côté, dans tout ce qui est Facebook aussi, j'anime un groupe sur les chercheurs du champignon du 04, puisque c'est une passion également qui m'anime. Et pareil, je partage pas forcément les coins, mais voilà, des petites fiches recettes ou des cueillettes que je vais faire de temps en temps.
Vous utilisez beaucoup de produits locaux, mais vous allez aussi chercher donc les champignons.
C'est ça, oui.
Et d'autres choses, des herbes aromatiques dans la nature. Vous aimez aller promener dans la nature.
Je m'appelle un peu, comme je dis, le chef cueilleur, parce que voilà, je suis passionné effectivement de tout ce qui a un attrait avec la nature, que ce soit les champignons, les herbes aromatiques. J'aime me balader dans la forêt. Je suis randonneur également, donc j'aime forcément aller dans des sommets qui sont assez importants pour découvrir une autre nature. Je m'éclate avec tout ça, c'est-à-dire c'est vraiment une passion de pouvoir dire, tiens, je vais dans la forêt, je vais trouver un champignon, je vais trouver une herbe, et de la mettre en avant dans une assiette. Voilà. Des fleurs également.
Et la photo aussi.
Et la photo, oui, ça c'est une passion, comme la randonnée qui me permet j'ai toujours été quelqu'un qui est, on va dire, un peu artistique. J'ai fait quelques années de beaux-arts, donc dans la bande dessinée. J'ai toujours gardé cet attrait sur tout ce qui est visuel. Et du coup, la photo et le dessin aussi. Bon, le dessin, j'en parle beaucoup moins, mais j'aime bien tout ce qui est dessin et du fait, tout ce qui est visuel, quoi. Donc voilà.
Alors, d'où vous vient cette passion pour la cuisine? C'est depuis tout jeune, vous avez eu envie de...
Ouais. Ben, je suis issu d'une famille, d'un côté, du côté de mon père, d'agriculteur, donc de la terre. Mon grand-père paternel élevait des vaches à lait. Et du côté de ma grand-mère qui vient de Barcelone, donc un côté plus catalan, espagnol. Et ben, le cocktail a fait que voilà, je suis issu d'une famille, de deux familles où la terre et la passion pour la cuisine ont fait que dès petit, je suis tombé dans la marmite, si c'est le cas de le dire. Et je me rappelle, ben voilà, quand j'étais petit, ma grand-mère qui cuisinait le lapin ou la paella. Mon grand-père, c'était plus côté terroir, donc voilà, c'est voilà, de tout petit.
De tout petit. Et après, vous avez donc fait un CAP comme tout le monde ou comme,
pas du tout.
Pas du tout. Ah oui.
Et oui, ah, oui. Non, c'est une reconversion professionnelle parce que je suis parti bizarrement dans la compta. Donc j'ai eu un BTS comptabilité, après j'ai fait des études dans l'expertise comptable en apprentissage et puis j'ai exercé pendant des années dans un cabinet de comptabilité. Et ben, la passion de la cuisine était de plus en plus grandissante. Et à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. Il y avait les blogs, ce qu'on appelle. Et puis, ben, j'ai commencé par un petit blog. Et puis, ben, ça a pris, on va dire, la sauce a pris petit à petit. Et puis, un jour, j'ai dit à mon patron, à mon expert comptable, voilà, je veux en faire mon métier. Et donc, je suis parti faire, à l'époque, c'était un CIF, un congé individuel de formation au sein de l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Où là, j'ai, on va dire, appris de manière assez rapide les bases du métier. Donc, je suis loin d'un CAP qui se fait sur 2 ans de cuisine. Mais là, voilà, j'ai appris les bases. Et ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier et de commencer dans ce métier. Pas évident au début parce que forcément, quand on est amateur et qu'on passe professionnel, c'est compliqué. Mais voilà, c'est un rêve que j'ai voulu mettre à l'œuvre et que j'ai concrétisé. Et puis voilà, maintenant, ça fait plus d'une quinzaine d'années, même 20 ans, que je pratique ce métier. Voilà.
À Digne.
À Digne, dans le 04.
Oui, dans le...
Voilà, essentiellement dans le département. J'ai eu mon restaurant pendant 3 ans. J'ai travaillé dans un chef étoilé, Jeanne Iglaise. J'ai travaillé dans d'autres maisons. Et voilà, donc... De temps en temps, je fais des animations à gauche, à droite pour des salons.
Mais vous ne tenez
plus de
restaurant.
Non, là, je travaille dans un petit bistrot. Mais voilà, je pratique toujours la cuisine parce que c'est ma passion. Et dès que possible, dès que je peux faire des animations, c'est pareil, c'est une passion. Donc,
Et vous ne faites plus traiteur.
Non.
Vous pourriez faire ça.
Oui, je pourrais. Mais non, là, j'ai arrêté.
Pour mon plus grand plaisir.
Ouais, mais non, Odile, désolé. Je ne pourrais pas là, vous satisfaire. Non, je l'ai fait pendant quelques années. C'est pareil, c'était vraiment une passion aussi. Et là, j'ai stoppé cette activité.
Donc maintenant, c'est essentiellement des animations.
Entre autres, voilà, après je vais vous expliquer, voilà, j'ai des quelques dates où je vais apparaître pour continuer à faire ces animations-là.
Est-ce que vous faites des formations aussi? Vous
non.
formez des élèves?
Non. Non. Ça, je le laisse le soin aux professionnels aguerris de l'éducation ou autre, parce que vraiment c'est un métier qui mérite amplement du temps et de la patience aussi, bien que je sois quelqu'un de très patient. Mais voilà, il y a des professionnels qui sont très, très doués pour ça.
Et vous avez écrit un livre?
Tout à fait.
Un ou plusieurs?
Alors deux.
Deux,
j'en ai créé un premier il y a quelques années que j'ai édité en auto-édition via des sites comme KissKissBankBank, où c'était les internautes qui avaient participé financièrement, ce qui m'a permis de faire ce premier livre.
Qui s'appelle comment?
C'était Cuisine gourmande. Et malheureusement, il n'y a plus d'exemplaires parce qu'on avait édité, ouais, ça a été vraiment un succès. On avait édité juste le nombre nécessaire de livres qui avaient été financés. Il m'en reste juste un pour moi. Et puis là, l'année dernière, on a édité en collaboration avec Haute-Provence Info et Jean-Luc Icard, qui est le dirigeant, un bouquin de cuisine qui s'appelle Cuisine d'Haute-Provence, où on a mis en avant une grosse partie des produits locaux des Alpes d'Haute-Provence, le petit épeautre, le safran, voilà, plein de produits du département et avec lesquels on s'est amusé à faire des recettes sucrées et salées Et ce livre est toujours en vente sur mes sites internet ou dans des bonnes librairies comme la rue Aladine, etc. Au fil des pages à Château-Arnoux, à Manosque, etc., etc. On le trouve de partout.
Ça se vend toujours, les livres de cuisine, hein. Parce que c'est vrai qu'avec Internet, maintenant, on a l'impression que tout le monde va chercher sur Internet.
Eh bien, à ma belle surprise et ma grande surprise, oui. Alors, je suis ravi parce que quelqu'un qui est présent comme moi sur les réseaux, je me suis dit un peu la même chose. Mmh. Et on a essayé de faire de ce livre aussi une partie un peu interactive, puisqu'à la fin, on retrouve un sommaire avec des recettes qui ont un flash code. Et avec le smartphone, on peut flasher ces petits flashs, ces flash codes, et ça nous permet d'aller sur des petites vidéos ou des trucs qui ne sont pas sur le bouquin. Et donc, ça permet d'avoir un livre vraiment interactif. Et voilà, bon, après, le coût du bouquin, c'est 15€, donc c'est pas un livre excessif, ce qui est tout à fait accessible à tout le monde. Et encore une fois, voilà, c'est à ma grande surprise, à la surprise de Jean-Luc, un succès. Et lui, par contre, il nous reste des exemplaires, donc n'hésitez pas. Voilà.
C'est noté. C'est noté. Donc, ce livre, quelles sont vos actualités ou est-ce que vous avez prévu ces mois à venir?
Là, dans l'immédiat, normalement, on devrait me retrouver sur la fête de l'agneau à Digne, au mois de mars. Donc, pour des dégustations et des démonstrations culinaires tout au long de la journée. Après, ben, tout au long de cet été, il va y avoir, bien entendu, des événements qui sont en pourparlers en ce moment. Donc là, je peux pas malheureusement encore affirmer ces rendez-vous, mais vous pourrez les retrouver sur mes réseaux. Et un rendez-vous qui sera certainement incontournable cette année, c'est la fête de la randonnée. Parce que l'année dernière, on a lancé avec Provence Alpes Agglo la première randonnée gourmande qui avait eu lieu à Cagrenard. Ça avait été un succès puisqu'une bonne 25-30 personnes m'avaient suivi. Et le but, c'était justement de faire un petit passage sur le marché de Digne où on a discuté et échangé avec deux producteurs. Et puis ensuite, on était allé sur le chemin de Cagrenard où on avait découvert des aromatiques que nous avions récoltées, cueillies et ensuite cuisinées au niveau du géoparc à Saint-Benoît. Donc ça avait été un beau succès et donc l'agglomération m'a demandé de renouveler cette année l'expérience sur deux dates. Et j'en suis fier parce que vraiment c'est un autre plaisir aussi partagé de pouvoir montrer que dans la nature des fois il suffit de pas grand chose et que l'on passe des fois à côté de belles plantes pour cuisiner des choses très très simples.
On reconnaît essentiellement le thym.
Le thym,
pour les novices.
Voilà, le thym, la sarriette, voilà, plein de d'aromatiques qui sont sur ce chemin et des fois des fleurs aussi. Donc voilà, c'est vraiment. On avait de mémoire recensé 17 variétés sur
de plantes aromatiques.
Ouais, sur le sentier de Cagrenard, toutes comestibles. Ça avait été vraiment. Il y avait le lilas, je me rappelle, qui a des vertus pour apaiser, pour les enfants. Alors, pas tout était utilisé en cuisine, mais par exemple le lilas, c'était dans des infusions. Et le but de cette randonnée, c'était justement d'expliquer que pas que la cuisine pouvait utiliser ces plantes. Mais ça avait été vraiment très intéressant.
C'est une bonne idée. Vous êtes aussi connaisseur dans les plantes, alors.
Alors, c'est maintenant pareil. C'est une passion parce que pourquoi? Ben, on a des outils qui nous permettent, outre les livres que je lis beaucoup sur tout ce qui est botanique et champignons, mais aussi des applications. Alors, comme je dis tout le temps, apprendre avec des pincettes parce que on peut pas se permettre aujourd'hui de dire que tel champignon est ou pas comestible avec une photo. Mais ça nous aide énormément. Donc, après, on se fait aussi un peu, on va dire, sa propre expérience. Donc, on sait ce qui va être comestible, toxique, etc. Surtout pour les champignons. Après, pour les plantes, ça va être un peu pareil. Pour les fleurs, c'est un peu la même chose. Il faut partir du principe que toute fleur est comestible si après la fleur, il apparaît un fruit. Voilà, c'est là, par exemple. Très, 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 très prochainement, on va avoir la joie de retrouver nos morilles, surtout avec la météo qui fait à l'heure actuelle. Donc la météo nous permet de trouver un peu des variétés plus tôt que les autres saisons. Malheureusement aussi, il faut le dire, parce que ça prouve bien que notre météo change et que inconsciemment la nature va avec. Et donc là, ben, par exemple, il va y avoir bientôt les morilles et par exemple les primevères, qui sont les premières fleurs comestibles qui peuvent être mises dans des salades pour donner un peu de gaieté au visuel et au goût aussi.
Que de projets fantastiques. Alors moi, j'étais restée sur les marchés, les balades gourmandes au marché. Vous avez fait ça quelques temps.
Oui, effectivement.
C'était une très bonne idée aussi, qui a bien fonctionné.
Tout à fait. On y bosse toujours dessus pour essayer justement avec l'Office du tourisme de remettre quelque chose d'intéressant, puisque les balades gourmandes étaient destinées aux touristes. C'est du boulot aussi parce que effectivement, il faut déjà trouver des personnes sur le marché qui sont prêtes à donner de leur temps, puisque c'est aussi leur lieu de travail. Donc ça, il faut pas l'oublier. Donc ça entre guillemets, ça les ampute sur leur lieu de travail de donner du temps. Mais voilà, il y a des personnes comme Garcin qui fait le fromage de Banon, qui chaque année répond présente. Ma copine Guylaine Chéron qui fait du safran à Barras, qui répond présent. Voilà, il y a plein de personnes.
Oui, vous avez vos producteurs.
Voilà,
attitrés,
on a nos producteurs. J'ai mes producteurs.
Ça peut faire des jaloux aussi.
Alors
sur le marché,
ça fait évidemment. Malheureusement des jaloux, parce que effectivement, moi je peux pas malheureusement répondre présent à tous les producteurs. J'essaye. C'est moi qui anime aussi la page du marché de Digne, la page Facebook, donc c'est pareil, c'est du boulot. J'essaye de partager autant. Alors des fois on me reproche que je parle beaucoup de la partie alimentaire sur la page Facebook du marché. Effectivement, forcément, c'est mon corps de métier, donc je n'oublie pas les noms alimentaires. On a eu la chance aussi de participer au concours des plus beaux marchés de TF1. Là, j'ai vu dernièrement, pas plus tard qu'hier, que bon, malheureusement ça sera pas Digne cette année, mais Forcalquier qui concourt pour ce concours des plus beaux marchés. Donc bon, même si je suis dinois, j'invite tout le monde à voter pour le marché de Forcalquier, puisque c'est un très beau marché également et qui est sur notre territoire des Alpes-de-Haute-Provence. Et voilà, donc c'est vrai que beaucoup de choses à gérer, toujours à titre bénévole, donc c'est du temps et c'est une passion. Et puis bon, à côté, ben j'ai d'autres choses qui m'animent, comme les disciples d'Escoffier, dont je suis membre, qui permet en fait, c'est une association de chefs bénévoles. On fait des animations.
Comment ça s'appelle,
pardon? Des disciples d'Auguste Escoffier. Voilà. Et en fait, on fait des animations culinaires tout au long de l'année pour récolter des fonds en faveur des enfants malades et handicapés. Donc, on fait des animations qui vont nous permettre de payer des fauteuils pour des enfants, des jouets en période de Noël, etc. Donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur avec les deux présidents qui sont Jean-Pierre Bordeaux et Christophe Roldan. Et on fait voilà des animations. La dernière fois c'était à la Porte Sarteau, la fête de l'amande. Là c'était à la fête de la truffe dernièrement à Mannes. Voilà, on essaye d'être présent vraiment, toujours pareil en fonction de nos plannings, sur diverses animations du 04. Et c'est important pour moi parce que voilà, c'est du bénévolat, mais c'est du bénévolat en faveur, encore une fois, des enfants malades et handicapés. Voilà. Ensuite, je fais partie des TOC françaises aussi. Je suis délégué régional aujourd'hui et délégué de cette association nationale où on va développer, pareil, avec des chefs bénévoles au sein de la région PACA, donc Alpes-Maritimes 83, 84, 13. 0405, des animations, pareil, pour une œuvre caritative. Voilà, donc c'est du boulot.
Oui.
Voilà, je suis passionné de tout ça, je partage avec plaisir, que ce soit dans tous ces milieux-là. Et puis voilà, les réseaux sociaux ne sont que la finalité de tout ça. Et les médias comme Fréquence Mistral Digne ou HPI me permettent de communiquer avec tout le monde. Quoi. Voilà.
Et les producteurs sont ravis aussi que vous fassiez...
J'espère.
Voilà.
Alors,
c'est un partenariat sympa.
C'est un échange aussi. Ouais. Donc là, je fais des partenariats avec des boîtes, des entreprises du 04. Donc par exemple, François Doucet à Oraison, une productrice de pâtes à côté de Sisteron, à Valerne qui fait des superbes pâtes. Et voilà, on essaye de faire des échanges parce que le but, c'est de faire parler de leur travail aussi. puisque nous, en chef cuisinier, on est en finalité la personne qui doit mettre en avant leur beau travail. Et c'est pour ça que, comme je dis tout le temps, sans eux, nous, on n'est pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que on sublime leur travail, en fait, et on essaye de le faire au mieux dans nos professions ou dans nos restaurants, quoi. Voilà.
Alors, j'ai envie de revenir sur ce titre de délégué régional des toques françaises. Ouais. Donc, comment on devient délégué des toques françaises ? Qu'est-ce que c'est les toques françaises ? Combien vous êtes à représenter ?
Alors, les toques françaises, on est une association nationale où je n'ai plus le nombre de membres en tête, mais on est plus de 800-900 chefs qui représentons la gastronomie française au niveau national et international. Je suis membre de cette association depuis quelques années. Et puis l'année dernière, au sein d'une assemblée générale, on m'a élu délégué régional de cette région PACA que j'affectionne. Et c'est avec honneur que j'ai accepté cette délégation, forcément.
Donc ça vous donne encore des missions supplémentaires ? Lesquelles ?
Alors, pour l'instant, c'est tout nouveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette association des toques françaises était essentiellement basée à Paris. Enfin, basé à Paris et fait beaucoup d'animations dans la région parisienne. Et donc justement, à la demande un peu des membres dans les régions, ils disaient, chez nous, il se passe rien. Et donc, c'est pour ça que le bureau a décidé l'année dernière de dire, maintenant, on va élire des personnes au niveau des régions. Pour l'instant, on est trois au niveau national. Donc, il y a moi et deux autres personnes, une personne en Alsace et une personne en Charente-Maritime. Et notre but est justement on va être un peu les tests, les chefs tests délégués pour justement promouvoir cette association au niveau des régions. Et là, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Nice, au salon AGEC Hotel, qui est un salon de l'hôtellerie-restauration, pour promouvoir, chercher des nouveaux membres qui viennent nous rejoindre dans cette association. Pour justement faire des animations dans des domaines, dans des restaurants, pour une association caritative que nous n'avons pas encore trouvée, mais on va trouver certainement très rapidement. Voilà.
J'ai envie de vous demander comment on s'entend entre chef cuisinier. Comment ça se passe le relationnel ?
On a tous la même passion, tous. Une grosse majorité, on va dire, qui sont passionnés. C'est comme dans beaucoup de métiers. Il y a des passionnés plus, des passionnés moins, etc., etc. On essaye de... Généralement, dans des associations comme les Disciples des Souffiers ou les Toques Françaises, c'est des passionnés. J'ai envie de dire des passionnés plus. Donc forcément, le courant passe bien. Comme je dis,
il n'y a pas de jalousie entre vous ?
Non. Non, honnêtement, non. C'est un plaisir de partager. Là, avec les toques françaises, dernièrement à Nice, j'étais avec des chefs que je ne connaissais pas, que j'ai eu la chance de connaître au salon. Avec les disciples d'Escoffier, dernièrement à Man, on était avec Jean-Pierre Bourdeau, Jeanne Iglaise, trois disciples d'Escoffier à faire une manifestation. Mais on se connaît, on vit, envie de dire, par cœur, puisqu'on est des chefs du département. Donc c'est toujours le but, c'est de promouvoir la cuisine, la gastronomie et toujours les producteurs locaux. Voilà. Donc il n'y a pas de rivalité. Le but, c'est vraiment d'échanger, de partager avec tout le monde.
Alors j'ai envie de vous demander encore plein de choses. par exemple, votre plus grand ratage ou votre plus grande réussite ou les plats que vous préférez cuisiner. J'imagine qu'il y a des préférences dans le sucré ou le salé ou le sucré-salé.
Alors, on va dire sucré-salé en préférence, après salé. Et puis en dernier, on va dire le sucré. Voilà, parce que le sucré, c'est encore un autre métier, c'est la pâtisserie. Nous, en tant que chef cuisinier, on essaye de faire ce qu'on peut avec les produits qu'on a. Mais voilà, enfin pour ma part. Mais voilà, dans cet ordre-là pour moi. Et puis oui, après des recettes préférées, oui, forcément. La paella que ma grand-mère a appris, même si c'est pas un plat local. Mais voilà, retrouver cette petite recette de mémé qui est une recette d'enfance. Et puis à côté, oui, plein de recettes. Cuisiner l'agneau de Sisteron, c'est un plaisir aussi chaque année. J'ai la chance de monter pendant l'été en alpage en haute altitude au col de Restefond pour cuisiner l'agneau et le faire découvrir aux bergers, aux randonneurs, aux personnes qui sont dans la montagne. Et c'est pareil, c'est chaque année, et c'est un plaisir, quoi. Voilà. L'agneau, c'est sûr, c'est un produit, on va dire, phare et produit favori, quoi. Voilà.
Alors, avant de venir encore à des anecdotes que vous avez pu rencontrer dans votre métier ou dans vos débuts en cuisine, qu'est-ce que je voulais vous demander ? Ça y est, j'ai perdu le fil. Parce que j'ai aussi, je me dis, il ne faut pas que j'oublie de lui parler de ça tout à l'heure. Donc voilà, je me perds.
Beaucoup de choses.
Voilà. Bon, donc on a vu que vous aimez le sucré salé et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que... voilà, c'est ça que je voulais vous dire. La mode vient au vegan, enfin, ouais, de plus en plus. Mmh. Est-ce que aussi les chefs cuisiniers doivent s'adapter à ce nouveau... mode d'alimentation,
tout à fait,
on fait des recherches.
Alors, c'est quelque chose, effectivement, qui est de plus en plus présent et depuis pas mal de temps, mm-hmm, déjà, il faut le dire. Et effectivement, moi, je pars du principe que la cuisine, c'est un métier où il faut satisfaire tout le monde. Voilà. Que ce soit d'une part par des goûts, par des intolérances, par des religions, etc. Il faut qu'on fasse un maximum pour satisfaire nos clients qui viennent nous voir tous les jours. Donc, par exemple, pour revenir au vegan, oui, moi, j'essaye aussi de partager un maximum, effectivement, en recherchant des alliances de goûts qui n'existent pas ou en essayant de faire quelque chose déjà de beau. Moi, c'est ma priorité, le beau. Bah, toujours, comme je dis aux enfants, parce qu'on mange avec les yeux. Mmh. C'est le premier sens qui vient, et ensuite forcément de bon, puisque forcément après les yeux on goûte et donc on a le goût. Et donc forcément avec le vegan, c'est pas évident, mais voilà, on arrive à faire des choses simples, végétariennes, et qui ont du goût, quoi. Donc c'est pareil, c'est une recherche.
Peut-être plus jouer sur les épices.
On peut jouer plus sur les épices, effectivement, pas forcément sur les épices, mais aussi sur, comme je disais tout à l'heure, sur ce que la nature nous offre. Mmh. Et, par exemple, les aromatiques font qu'on peut arriver à faire des choses super sympas et simples avec des plantes qui nous sont voisines tout au long de l'année, quoi. Donc, voilà, les champignons, c'est quelque chose qui est simple et qui peut être très bien mis en valeur pour quelqu'un qui est végétarien. Donc, c'est une recherche permanente aussi, les goûts, les saveurs. On a, entre guillemets, les bases de ce que l'on connaît dans tout ce qui n'est pas végétarien. Mais on cherche. Voilà, les chefs cherchent et sont effectivement aujourd'hui obligés de se mettre à l'ordre du jour et de répondre présent à tous les goûts que nous avons en face de nous en tant que clients. Donc il faut répondre, voilà.
Alors, par rapport au visuel, c'est vrai que c'est très important, ne serait-ce que pour les enfants ou même les personnes... Les personnes âgées, si on leur présente une purée, c'est plutôt écœurant si c'est une grosse plâtrée. Donc l'esthétique est très importante pour la présentation. J'ai envie de vous demander aussi par rapport au trompe-l'œil, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire. Vous faites aussi des choses comme ça ?
Ça m'arrive. Effectivement, je me suis amusé plus tard que en fin d'année à faire une clémentine en trompe-l'œil. Voilà, c'est pour nous chefs cuisiniers, c'est des petits plus qui nous permettent aussi de se dire on est capable de faire ça, et pourquoi pas le proposer aux clients ou aux personnes qui viennent sur les salons, les foires. Et ça épate toujours parce que on va se dire tiens, effectivement, j'aurais pas imaginé qu'on puisse faire ça avec tel produit et donner l'impression que c'est un autre produit. Ça, c'est une mode qui a été issue des émissions de télé, il faut le dire. Mmh. Et donc, forcément, ça a pris aussi et ça plaît. Bon, après, il y a des pâtissiers de renom qui sont très, très forts là-dedans pour faire des trompe-l'œil en pâtisserie. C'est un peu plus simple que la cuisine. Mais voilà, c'est pareil. C'est la cuisine qui se réinvente, en fait, c'est un métier pour, c'est pour ça que j'ai choisi, qui permet d'être toujours animé, en fait.
Toujours créatif.
Et voilà, ça, c'est une remise en question permanente, quoi. On s'intéresse à tout, voilà, c'est, on est sans cesse. Et puis après, la finalité, encore une fois, c'est de partager avec les auditeurs, avec les lecteurs, etc., quoi. C'est perpétuel. C'est un bonheur perpétuel.
Frédéric Payan, alors j'ai envie de vous demander aussi, si vous regardez ces émissions sur les concours de cuisine, où des fois ça peut donner envie, en même temps il y a cette dureté des chefs qui notent, vous suivez ça ?
Alors je suis, oui, effectivement je suis, parce que au tout début de ma carrière, j'ai essayé d'y mettre un pied à l'intérieur, hein. Mm-hmm. C'était à l'époque Masterchef et Top Chef. Mm-hmm. Et puis voilà, ces émissions évolue aussi. Là, bientôt, Top Chef va débuter la 16e saison, ce qui est énorme. Et effectivement, c'est des concours de cuisine qui sont critiqués, il faut le dire, par beaucoup de professionnels.
Pourquoi alors ?
Alors pourquoi ? Parce que des fois, ça met un peu des paillettes dans les yeux des jeunes qui croient malheureusement qu'on arrive du jour au lendemain à être chef dans un restaurant étoilé ou pas. Et non, c'est un métier comme tout autre métier qui s'apprend, qui évolue et qui, voilà, ne se fait pas un jour. Moi qui, comme je disais, suis autodidacte, aujourd'hui, maintenant, avec l'expérience que j'ai, je peux dire, j'ai appris. Voilà. Mais au début, non, je peux pas dire que du jour au lendemain, on sort de ces émissions de télé et qu'on est chef. C'est pas possible. Ça n'existe pas. On est comme dans les émissions de chant. Des personnes qui sont en apprentissage. On peut pas dire qu'on sort de la Star Academy qu'on est chanteur. On est en apprentissage dans la chanson. On a un don, ça peut être le cas, mais à ces candidats, à évoluer dans leur don et à devenir des bons chefs de cuisine et à pouvoir partager après. Moi, quand je vois aujourd'hui dans ces émissions de cuisine, que ce soit Top Chef ou d'autres, que ils ont fait cette émission-là et qu'au bout de 6 mois, on leur octroie ne serait-ce que l'étoile au guide Michelin, je me dis c'est pas possible. Voilà. Alors que d'autres chefs se battent depuis des années pour cette concrétisation.
Vous croyez pas au talent.
Alors j'y crois, trop jeune. Mais pas au bout de 6 mois, ouais, c'est pas possible. Ouais. Voilà, c'est mon avis. Je dis pas qu'ils n'ont pas de dons. Je dis pas qu'ils n'ont pas quelque chose dans ce métier-là. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi voilà, au bout de 6 mois, on octroie une étoile, puisque bon, il faut dire, pour certains, c'est la concrétisation de ce métier. Pour d'autres non, puisque le guide Michelin est aussi critiqué largement. On entend chaque année dans les médias des chefs qui renoncent à cette gratification. Mais voilà, c'est un métier qui est compliqué. C'est un métier de passion. Et c'est un métier qui fait que ces émissions culinaires, moi je dis ça a du bien parce que ça a redonné de l'importance à ce métier-là, qui est compliqué. Mais il faut pas non plus les critiquer parce que voilà, c'est après à chacun à évoluer dans ce métier-là. Ces jeunes qui sont la plupart du temps déjà dans des grandes maisons étoilées, des restaurants, etc. Et c'est à eux à tout faire pour devenir de bons chefs et de bons cuisiniers.
Alors qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier quand on démarre?
Ça, c'est une bonne question, Odile. Merci d'avoir posé. C'est, on va dire, la patience. La patience, pourquoi ? Parce que on est là pour apprendre, encore une fois. Même aujourd'hui, j'apprends toujours. Le respect du produit aussi. Même aujourd'hui, j'apprends toujours. Parce que du produit et du producteur, indirectement. Là, dernièrement, je suis allé avec un ami chercher des truffes. Et forcément, c'est des produits qui sont nobles, qu'on a la chance d'avoir dans notre département. Et une fois qu'on a ces produits nobles, à nous de les sublimer dans l'assiette et de pas en faire n'importe quoi. Voilà, C'est un métier qui est compliqué aussi pour le relationnel parce que ben on a passé des crises. Hein. Le Covid en a été une importante. Trouver des personnes passionnées dans ce métier, c'est pas évident aussi. Maintenant, on a la chance d'en trouver un peu plus. Mais c'est voilà, c'est des métiers qui sont compliqués du part des heures, etc. De l'implication de tout un chacun dans un restaurant, dans une brigade, dans une cuisine. C'est un métier qui est partagé avec les métiers de la salle, sommellerie, service, avec des métiers de la pâtisserie, des métiers de la boulangerie. C'est un métier qui est complet. Voilà. Chef de cuisine, aujourd'hui, je dis que on peut pas dire que le chef est la personne la plus importante dans un hôtel ou dans un restaurant. C'est pas vrai. Tous les métiers sont importants, que ce soit le serveur, que ce soit le sommelier, le boulanger, le pâtissier, le plongeur. C'est un travail d'équipe. Voilà, c'est il n'y a pas de personne plus importante pour moi. Tout le monde est important. C'est un métier d'équipe et c'est un métier, comme je dis, avec les producteurs. Moi, j'apporte une importance à aller vers eux parce que je dis tout le temps que ben, sans les producteurs, on n'est rien aussi. Et voilà, c'est important. C'est un métier de partage, et encore une fois, et un métier d'équipe. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, ben, même après des années d'expérience, c'est un métier qui reste difficile, mais un métier de passion, encore une fois, et de partage. Et c'est pour ça, c'est ce qui m'anime.
Alors, vous avez tenu un restaurant pendant 3 ans. Mm-hmm. C'était à Champtercier ?
C'est ça.
Et alors, c'est beaucoup de travail aussi, et pas assez de... Pourquoi vous avez lâché ça ?
Ben, j'ai lâché parce que malheureusement, on a eu des hauts et des bas avec les clients. Il y a des périodes plus ou moins fastes, on va dire. Et puis, ben, l'ancien comptable que j'étais, forcément, à un moment donné, il dit stop, il faut arrêter. Et voilà, donc j'ai décidé d'arrêter. Et puis bon, après, j'ai eu la chance de suite de travailler dans un restaurant étoilé qui était Jeanne Iglaise à la bonne étape. Mmh. Où là, ben, on passe de sa cuisine dans une équipe, dans une brigade. C'est le même métier, la même passion, mais c'est différent. Voilà. Mmh. Et ce qui est bien aussi dans ce métier, c'est ça, c'est que justement, on a diverses approches, qu'on travaille dans un étoilé, dans un gastronomique, dans un semi-gastronomique, dans un bistrot. Tout est fait pour que le client soit heureux et, encore une fois, qu'on puisse découvrir la passion par le goût. Voilà. J'ai travaillé aussi dans une résidence haut de gamme à Digne, où là, c'est des personnes âgées qui étaient mes principaux clients. Et voilà, c'était pareil, c'était, comme on disait tout à l'heure, un plaisir de pouvoir leur faire goûter encore des choses nouvelles ou des choses anciennes, puisqu'il y avait de la demande aussi sur des plats typiques, la tête de veau ravigote, voilà, des plats même que moi, je ne connaissais pas. Et voilà, c'est la cuisine aujourd'hui, pour moi, à chaque fois que j'emploie ce mot cuisine, là on est à la radio, mais je mets toujours une majuscule. Parce que pour moi, c'est un métier qui est important. Et ce mot cuisine, c'est un mot qui est aussi important. Parce que au travers de ce mot, c'est pas la simple petite cuisine à la maison, c'est ce qui aujourd'hui unit beaucoup de monde, les chefs d'État, quand ils prennent des décisions autour d'une table.
C'est magique, c'est un effet magique.
Et on n'est rien sans la cuisine, hein, dire ce qui est aujourd'hui, et la pâtisserie aussi, puisque voilà, aujourd'hui la pâtisserie a une importance également. Donc voilà, c'est tous ces métiers-là qui ont un attrait avec la bouche et le goût font que c'est des métiers importants et qui resteront pour moi, je pense, importants pour des décennies. Voilà. Et qui évoluent avec leur temps, puisque aujourd'hui, ben voilà, on en parlait tout à l'heure avec la remise en question de tous les goûts, les saveurs, les trompe-l'œil, toutes ces cuisines qui arrivent. Et on a la chance de pouvoir partager aussi avec d'autres pays, notamment le Japon.
Ah oui, c'est ça aussi que je voulais, c'est bien d'en parler.
Ouais.
Par rapport
aux autres pays.
Aux autres pays, puisque ici, bon, c'est la Provence, les produits du terroir. Mais est-ce qu'on peut pas être tenté de recopier une recette d'un pays étranger?
Alors, comme j'expliquais, notamment le Japon. Pourquoi? Parce que c'est une cuisine et une gastronomie qui ressemble bizarrement à la cuisine française, à la gastronomie française, mais qui nous permet de découvrir d'autres saveurs. Et d'autres techniques aussi, il faut dire ce qui est, puisque les Japonais, les chefs japonais ont des techniques que nous n'avons pas en France, et vice-versa. Ils n'ont pas des techniques que nous, chefs français, avons. Et ben, c'est des échanges aussi. Voilà. On a la chance, nous, la gastronomie française, d'être un beau pays parce qu'on a plusieurs régions, plusieurs départements, plusieurs terroirs. Et tout ça mis ensemble fait que c'est la cuisine française, la gastronomie française. On a la chance d'avoir des beaux voisins aussi, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre, bon, un peu moins. Mais voilà, on a tous à échanger dans nos gastronomies et nos cuisines différentes. Et qu'elles soient proches ou lointaines, chacun des chefs apporte. Moi, je me régale tous les deux ans quand je vais au CIRA à Lyon, qui est le salon international de la gastronomie, où là, on a la possibilité d'échanger avec des chefs internationaux. Et notamment auprès des compétitions comme les Bocuse d'Or, dont je suis tous les deux ans, là les auditeurs le voient pas, mais j'ai ma veste. C'est un plaisir de voir des chefs issus de tout pays, Japon, Roumanie, Chine, etc., de combattre, entre guillemets, pour le plaisir des papilles gustatives et des jurys qui sont présents, et de voir justement ces chefs-là pendant 2 heures, 4 heures, 6 heures, des fois 8 heures de compétition, donner le meilleur d'eux-mêmes pour développer des nouvelles techniques, des nouveaux goûts. J'invite tout le monde à aller sur les sites des Bocuse d'Or. C'est des compétitions, pas sportives, mais presque. Honnêtement, c'est passionnant, c'est quelque chose qui évolue d'année en année et à qui on doit à Monsieur Paul Bocuse ses premières compétitions à l'époque. Personne n'y croyait. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte tous les deux ans que des pays développent des techniques qui sont au-dessus de la gastronomie française, notamment les pays nordiques, Norvège, Finlande, etc. Et on se fait dépasser pour le grand bonheur, mais un peu aussi avec tristesse, puisque quand même on est français, donc on est fiers de notre gastronomie. Mais voilà, on voit que des jeunes d'autres pays ont appris énormément de la cuisine française et développent dans leur pays des techniques et des goûts et des saveurs extraordinaires, exceptionnelles. Et tous les deux ans, et là j'ai hâte, parce que ça va être en janvier 2025, et de voir notre candidat français, Régis Macron, qui va vraiment se battre pour nos couleurs et notre gastronomie.
Qu'est-ce que vous pensez des étoiles, enfin
du guide Michelin?
Du guide Michelin, c'est un peu douloureux pour certains chefs qui se sont. Enfin...
Effectivement, c'est pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour certains, c'est important. Mmh. Il faut dire ce qui est, parce que encore des chefs apportent une importance à ce guide rouge qui va bientôt paraître. D'ailleurs, j'en parle sur mes réseaux sociaux. Qui cette année, la cérémonie va être à Tours. Et oui, c'est blessant pour certains, je reconnais, parce que des fois, le guide est très, comme je dis, drastique. Il va pénaliser du passage de ses inspecteurs dans des restaurants. Un chef qui a 2 étoiles, qui peut de suite tout perdre. Et voilà, d'autres préfèrent dire « je me retire moi-même ». Comme Bras, par exemple, dans l'Aveyron, qui a décidé quelques années de sortir de ce guide parce qu'il a estimé qu'il n'avait pas besoin du guide pour attirer des clients. Et voilà, c'est. Moi, j'espère que dans le 04, on va avoir un nouveau chef étoilé, pour pas le citer, Louis Gachet au couvent des Minimes, qui est arrivé l'année dernière, qui est un meilleur ouvrier de France. Et j'espère qu'il va avoir une nouvelle étoile au guide Michelin cette année, et justement, qui va donner aux Alpes d'Haute-Provence une nouvelle étoile. Aujourd'hui, on en a 3, une à Manosque, une à Château-Arnoux et une à Moustier-Sainte-Marie. Donc on a 3 étoiles sur le département. C'est peu, mais voilà, c'est aussi du travail et de l'investissement pour leurs équipes, parce que c'est un combat, il faut le dire, permanent, au jour le jour. On ne sait pas quand le guide Michelin, l'inspecteur, va passer. On s'en doute, parce qu'après, avec les années, on sait à quelle période de l'année ils préfèrent passer, etc. Mais voilà, c'est pour ces chefs-là, c'est un combat, et je retire mon chapeau, franchement, parce que une fois qu'on l'a eu, c'est une chose, mais il faut la garder, ou alors évoluer et en avoir 2, ou pourquoi pas en avoir 3. J'ai un ami qui est Alexandre Mazia à Marseille, qui a atteint le Graal des 3 étoiles, et Alex ben voilà, c'est aujourd'hui il a 3 étoiles, il est au maximum. Mais voilà, son but au quotidien, c'est de les conserver et de faire partie de cette grande maison des 3 étoilés au guide Michelin. C'est une récompense ultime, je pense, pour leur métier, à ces chefs-là. Et voilà, on sait que ben, d'autres, comme Bernard Loiseau à l'époque, en avaient perdu.
C'est lui qui s'est suicidé.
Voilà, et c'est compliqué. Ouais. Moi, sans être touché par ce milieu-là, je sais que voilà, comme on dit, il y a des personnes à qui ça va être dur, mais voilà, je pense que ben, il faut toujours raisonner avec la passion du métier et le partage. Et voilà, ben, on peut être étoilé, c'est une satisfaction, et on peut les perdre, ça n'est une autre. Voilà, il faut pas perdre la passion du métier, je pense. Voilà.
Est-ce que vous vous rappelez de votre premier plus beau souvenir dans la cuisine, d'une fierté que vous avez pu avoir? Première réussite.
Je vais dire que ça peut peut-être sembler bête, mais chaque année, je participe à la semaine du goût au mois d'octobre et c'est un plaisir de passer dans les écoles. Et la première année où j'ai fait, il y a 19 ans, ma première intervention dans une école, voilà, c'était le sourire d'un enfant et dire que j'étais arrivé à faire passer une information auprès de cet enfant. Et aujourd'hui, 19 ans après, ben, croiser ce même enfant qui dit « Chef, je me rappelle quand vous êtes venu dans mon école et que vous m'avez fait goûter ça et tout ça », ben, c'est ça. C'est peut-être ma plus belle, enfin, une des plus belles reconnaissances de se dire que ben, voilà, le partage fait qu'aujourd'hui, on n'est pas des fantômes et qu'on fait des choses pour être vu, être lu et que ben, voilà, c'est un plaisir. Un autre jeune aussi qui n'était pas destiné pour ce métier et qui travaille dans un étoilé aujourd'hui, que j'ai la chance de suivre sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est, je pense, la plus grande satisfaction, c'est de la reconnaissance de ces jeunes, de ces personnes que je côtoie dans les salons, dans les foires, dans le restaurant, au bistrot où je bosse aujourd'hui, et de se dire, ben voilà, on a quelqu'un qui reconnaît notre travail et qui, aussi sur les réseaux sociaux, les commentaires qu'on me fait, etc. Donc voilà, c'est la plus belle reconnaissance.
Et le plus beau, le plus dur moment que vous avez vécu dans la cuisine, est-ce qu'il y a eu, une réception avec un plat complètement raté?
Non, pas raté. C'était, je me rappelle, lors d'une paella qu'on avait fait avec un ami, et se retrouver avec la gamelle vide avec 20 personnes en face qui n'ont pas mangé. C'est compliqué.
D'accord. Donc c'était pas un ratage, c'était mauvais calcul.
C'était mauvais calcul. Ouais. Alors bon, pas de nous malheureusement, parce qu'on avait vu qu'il y avait 20 personnes qui n'étaient pas prévues. Ouais. Mais en fait, ben voilà, ouais, ça a été ça, ou un mariage aussi une fois où on s'est retrouvé sans gaz et 200 personnes à faire manger. Et là, ben dur moment quoi, dur moment. Mais c'est des souvenirs qui sont pas des souvenirs négatifs, parce que comme je dis, c'est toutes les expériences et souvenirs, qu'ils soient bons ou pas, font évoluer les personnes. Donc quand je parlais de mon restaurant tout à l'heure, j'en garde pas un mauvais souvenir, loin de là. C'est une expérience de ma vie professionnelle, et pas que, malheureusement, puisque ça a un impact aussi sur notre vie au quotidien. Mais voilà, je le prends pas en négatif, je dis que c'est quelque chose qui m'a fait évoluer aujourd'hui. J'ai 47 ans, je suis dans la fleur de l'âge, on va dire, et ma vie professionnelle n'est pas terminée. Et je dis que voilà, toutes tes expériences sont bonnes à prendre, bonnes ou mauvaises. Elles nous font évoluer. Et dans la cuisine, ben, c'est pareil, quoi. Donc c'est les deux petits flops entre guillemets, mais bon, on en a d'autres. Mais encore une fois, c'est pas des choses négatives.
Ça vous arrive jamais d'avoir de pas avoir envie de cuisiner? De vous faire un truc sur le pouce.
Ah ben oui,
ça arrive.
On est comme tout un chacun. Des fois, c'est ma femme qui cuisine, surtout à la maison. Je la salue. En plus, c'est Saint-Valentin aujourd'hui. Je la remercie de sa patience aussi, et ma fille aussi, parce que c'est pas simple de vivre avec quelqu'un de passionné. Et donc, elles sont là au quotidien, heureusement, parce qu'effectivement, des fois, on rentre à la maison, on se dit... Voilà quoi, j'ai pas envie. Et bon, ben, elle prend le relais, elle fait à manger. Des fois, quand il y a des amis, c'est pareil, c'est elle qui cuisine. Et elle prévient. Elle prévient quand on invite les amis que c'est elle qui cuisine. Non, mais c'est, voilà, c'est blague à part. C'est, oui, des fois, on a comme tout, on a des envies, des périodes un peu moins envie. Mais voilà, c'est toujours essayer de, encore une fois, de partager, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, des nouvelles recettes, des partages. C'est vraiment un plaisir.
Alors on peut dire que la cuisine, c'est un art qui peut se marier avec d'autres arts. Et sans vendre la mèche, j'ai reçu Pierre Ragolski il y a quelque temps, qui m'a parlé d'un projet qui m'a semblé plutôt sympathique, allier la cuisine et la poésie.
C'est ça. Et Pierre a fait un magnifique livre qui est paru dernièrement sur des recettes de cuisine qu'il a mis en vers et qu'il a fait des poésies. Et il m'a fait l'honneur, effectivement, de prendre une recette que j'avais faite, une tarte aux prunes multicolore, et qu'il a mis en vers. Et quand je l'ai rencontré, avec son aura, il m'a cité sa poésie. J'ai été agréablement surpris, parce que franchement, il a fait un boulot extraordinaire, exceptionnel. Et il a fait ça avec d'autres recettes, des recettes personnelles, des recettes d'enfance, etc. Et il a écrit un superbe livre que je conseille sur la poésie en cuisine. Effectivement, c'est un art, la cuisine, qui peut être mis avec la musique aussi.
Qu'est-ce que vous écoutez comme genre de musique?
Alors moi, j'écoute de tout. Hein. Je suis quelqu'un qui va pouvoir écouter du hard rock, de la cuisine, de la musique très calme, de la musique pop. J'ai pas de musique privilégié. Je suis quelqu'un, encore une fois, qui a une bonne oreille, je pense, et qui peut cuisiner avec de la CDC comme avec de la musique classique. C'est en fonction de l'humeur aussi, peut-être. C'est comme vous dites, Odile, effectivement, peut-être qu'en fonction de l'art qu'on pratique, on va peut-être dire, ben tiens, je vais écouter plus une musique un peu entraînante, une musique plus passive. C'est un métier qui nous permet effectivement de lier plein d'autres arts. Je sais, comme je disais tout à l'heure, que je dessine. J'aime bien dessiner des plats aussi avant de les mettre dans l'assiette. J'ai une collection, certains me connaissent, de plus de à peu près maintenant 500 assiettes, parce que j'achète une assiette. Je n'avais pas acheté deux assiettes, trois assiettes, quatre assiettes. Je vais acheter une assiette parce qu'elle me plaît. Et je me projette en fonction de la couleur, de la matière de l'assiette, si c'est du grès, si c'est de la porcelaine. Je vais, comme un tableau, comme un peintre, je vais me dire, tiens, sur ce support, qu'est-ce que je pourrais mettre comme produit? Qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Voilà. Donc je vais dessiner mon plat. Je vais prendre, c'est pour ça que je vous invite à aller sur mon compte Instagram. Et je vais ensuite tout faire pour que c'est quelque chose de rendu au visuel. Comme je disais, c'est un art. Et donc voilà, ça me permet de mettre en avant des fois aussi le travail des potiers ou des céramistes qui veulent jouer le jeu avec moi. De dire, tiens, on va mettre cette assiette en avant parce que elle me rappelle quelque chose. J'ai travaillé avec des céramistes de Fort-Calquier et d'autres endroits dans la région. Et voilà, c'est un travail complet. C'est une passion, un travail vraiment complet sur tout, quoi. Sur l'art, sur tout. On pourrait en parler pendant des heures, mais...
Je vois que le temps est bien passé. C'est super. Voilà. C'est très agréable, en tout cas, de découvrir toutes ces
passions.
Toutes ces passions.
C'est pour ça que j'essaie vraiment de le partager au maximum. Et sur les réseaux et sur tous ces supports aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir. Et c'est un plaisir, encore une fois, d'être au contact de personnes qu'on a en face de soi et d'échanger. Voilà. Là, dernièrement, la fête de la truffe, c'est un rendez-vous annuel incontournable. Mais c'est un rendez-vous génial parce qu'on échange. Il y a des personnes qui viennent d'année en année pour découvrir ma recette de l'année avec la truffe. Et ça, c'est quelque chose aussi, la fidélité. Moi, Je suis tous les jours agréablement étonné parce que je vais sur des salons, je vois des gens qui me disent « Ah, je vous suis sur les réseaux, tout ça », et ça, c'est... Voilà, c'est pareil, c'est une satisfaction et c'est un plaisir.
Frédéric Payan, merci beaucoup.
Merci Odile.
Et puis donc on rappelle que ça fait quand même un partenariat fidèle et long sur Fréquence Mistral, ouais. Puisque je retrouve des très anciennes émissions. Voilà.
Pourquoi pas un jour écrire un livre avec Fréquence Mistral et toutes les recettes qu'on a fait, parce que ouais. Là, ça commence à faire pas mal de recettes.
Avec des titres aussi jolis qu'avec la Porte-Sarto, enfin, tout est poétique aussi dans les titres.
C'est le but.
À bientôt, merci.
Merci
et
Odile.
Et puis voilà, on retrouve vos recettes sur notre site aussi, la recette du mois. Donc c'est bientôt le mois de mars, ça veut dire qu'il va bientôt y avoir une nouvelle recette.
Hein. C'est ça.
Donc restez à l'écoute de Fréquence Mistral. Et puis, alors c'est vrai que si les gens veulent aller sur vos pages, on ne sait plus laquelle choisir.
Il faut tout simplement taper Frédéric Payan sur Google,
voilà,
et vous laisser entraîner soit sur Facebook, soit sur Instagram. Après, j'ai un site internet aussi sur Google.
Aussi.
Vous verrez sur le site internet du chef Payan, Frédéric, il y a tous les liens vers tous les réseaux, les recettes en ligne, etc. etc. C'est très complet.
Merci.
Merci.
Et puis, j'ai pas pensé, c'était la Saint-Valentin. Alors, bonne Saint-Valentin à tous nos auditeurs et nos auditrices. Et puis, à vous aussi. Alors, bonne fin de journée. Et merci.
Pardon.
On va écouter donc Aldo Romano.